France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
D'après une étude de l'Institut des politiques publiques dévoilée le 3 mars dernier, la moitié des élèves de 6e à Paris pourraient, en 2035, être scolarisés dans le privé. Une donnée qui ne concerne pas que la capitale, mais également certaines grandes villes de France, comme Lyon, Nantes ou Angers, qui à terme pourraient connaître la même évolution. Alors, l'enseignement privé pourrait-il un jour prendre le pas sur l'enseignement public ? Va-t-on assister au retour de la guerre scolaire opposée publique et privé? Cela a-t-il encore du sens? Apprend-on vraiment mieux dans le privé? Deux invités pour en discuter, pour en débattre même ce soir. Pierre Merle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de sociologie, professeur d'université à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de Bretagne. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé « L'enseignement privé ». C'est aux éditions La Découverte. Face à vous, Harold Cobert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage intitulé « Foi de prof, une année dans l'enseignement privé catholique ». C'est aux éditions du Rocher. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et je redonne ce chiffre pour commencer, chiffre que je voudrais vous demander d'expliciter l'un et l'autre. D'après une étude de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, la moitié des élèves de 6e à Paris et dans d'autres villes, hein, on l'a compris, pourraient être à partir de 2035 scolarisés dans le privé. C'est un chiffre symbolique, un chiffre frappant qui raconte tout de même une tendance profonde, Pierre Merle. Comment l'expliquer ?
Il y a beaucoup d'explications. Il y en a une qui me paraît majeure, qui tient à la politique des postes. Par exemple, sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le nombre de postes du privé a augmenté de 4500, alors que le nombre de postes d'enseignants du public a diminué de 17 000. Quand le privé dispose de beaucoup plus de postes, il a la possibilité d'ouvrir des classes. Alors que, inversement, évidemment, quand le public a moins de postes, eh bien, il est obligé de fermer des classes. Donc, c'est structurel, ça, c'est une donnée structurelle.
C'est structurel, mais on a envie de vous demander pourquoi. Pourquoi on ouvre des postes dans le privé? Pourquoi on en ferme dans le public, alors?
C'est un choix politique, pour une grande part, parce que sous le quinquennat de Hollande, seulement 250 postes d'enseignants ont... C'est le nombre de postes d'enseignants. Il y a eu seulement 250 postes d'enseignants du privé en plus et 60 000 dans le public en plus. Donc on voit bien qu'il y a une balance énorme dans la politique des emplois qui consiste à en créer beaucoup sous le quinquennat de Hollande et en diminuer dans le public, mais en augmentant dans le privé, sous le ministère Jean-Michel Blanquer. Donc ça, c'est une question très importante, évidemment. Où sont créés les postes?
Harold Cobert, votre facteur explicatif privilégié, si je puis dire, où se trouve-t-il?
En tous les cas, je suis tout à fait d'accord à ce que vous venez de dire, mais je vais essayer d'apporter un autre éclairage. Il y a aussi plusieurs chiffres que donne cette étude qui sont absolument passionnants, à savoir qu'à Paris, la natalité a chuté entre 2010 et 2024 de 32%. Et que le nombre d'élèves a diminué dans le privé de 1,4% et dans le public de 14,4%, soit un ratio de 1 à 10. Donc il semblerait aussi qu'il y ait une mécanique démographique qui entraîne une baisse des effectifs. Parce qu'on peut se poser la question... Qui reste encore à Paris? Quelles sont les familles qui restent, comme l'éducation privée catholique sous contrat accueille tout de même des familles plus favorisées en règle générale? Ce sont les familles qui ne souffrent pas de la gentrification. Tandis que les familles avec plus d'enfants quittent la capitale et se retrouvent donc dans d'autres sphères. C'est pour ça que les grandes villes, peut-être, il y a aussi un facteur de géographie sociale qu'il faut prendre en compte pour expliquer, c'est-à-dire, parce que quand on voit ces chiffres-là qui sont absolument stupéfiants, on peut se dire, est-ce que tous ceux qui quittent le public fuient vers le privé? Et je ne pense pas que ce soit totalement le cas.
Vous représentez ici dans ce studio, Harold Cobert, le privé. L'une des premières choses que vous nous dites, hein, c'est rare dans la bouche d'une personne justement qui travaille, ou en tout cas qui représente plutôt plus exactement ce secteur-là. Vous nous dites clairement, le privé accueille plutôt les personnes favorisées, cet objectif.
Si vous voulez, quand on regarde les études IPS, c'est incontestable. Donc je ne vais pas nier le monde réel. Mais après, il y a une certaine forme de mixité. Tous les établissements privés catholiques, sous contrat, ne se ressemblent pas. Moi, je suis professeur de français, un jeune professeur de français, puisque je ne suis professeur que depuis un an et demi. Cette année, j'ai plus de classes au lycée Passy-Saint-Honoré. Et je peux vous En tous les cas, dans ma classe de seconde l'année dernière et dans les classes que j'ai encore cette année, j'ai des élèves qui viennent du 16e arrondissement, évidemment, mais j'en ai qui viennent de Sarcelles, qui viennent de Bois-Colombes, qui font parfois une heure et demie de transport pour pouvoir être là, et dont les parents, parce que je demande toujours une fiche en chaque début d'année, quelle profession font vos parents, qui sont des petits commerçants, qui sont des entrepreneurs. Et j'ai même entendu sur une radio concurrente la semaine dernière, une femme qui avait appelé pour témoigner, elle habite en province, elle est au chômage et elle a fait le choix du privé pour sa fille, donc ça représente un effort conséquent. Donc certes, il y a plus de gens favorisés, mais il n'y a pas que cela non plus.
Je reviens un instant, Pierre Merle, sur cette étude, et on reparlera évidemment de mixité sociale. Est-ce que l'on observe par ailleurs un désengagement des écoles privées, du secteur privé de manière générale, dans les espaces, dans les géographies défavorisées ?
Alors là, il y a un territoire de l'enseignement privé qui se dessine progressivement. Alors, ce territoire, il existe depuis le 19e. D'abord, les régions catholiques comme la Bretagne et la Loire-Atlantique sont évidemment des régions dans lesquelles l'enseignement privé est très, très présent. Mais ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, c'est en fait de moins en moins d'établissements privés dans les départements et les communes les plus pauvres. C'est une évolution qui est très forte. Aujourd'hui, au niveau de la Haute-Corse, vous avez plus que 6% des élèves qui sont scolarisés dans le privé. C'est à peu près la même chose dans l'autre département Corse. En Creuse, qui est l'un des départements des plus pauvres, vous avez quasiment aucun établissement privé. Et en même temps...
Presque aucun établissement.
Oui, je crois que c'est 0%. De collégiens scolarisés. Alors, je ne veux pas trop affirmer, mais c'est très faible. Et il y a des départements où il n'y a pas de privé. Mayotte, par exemple, il n'y a pas de privé. Il y a beaucoup de départements où c'est quand même que 5 ou 4% des élèves qui sont scolarisés dans le privé. Et inversement, en même temps qu'il y a cette désertification, en quelque sorte, du privé dans les départements pauvres, le privé est de plus en plus présent dans les départements riches. Donc le mouvement est très très net. Il y a l'effet de la confession pour la Bretagne et puis la Loire-Atlantique, mais il y a un effet catégorie sociale, en fait, qui fait que, pour avoir étudié la Bretagne, les établissements populaires ferment et les établissements se remettent, en quelque sorte, dans les communes périphériques riches. Pour vous donner juste un chiffre, sur les 10% des établissements les plus populaires en France, publics et privés réunis, aujourd'hui, il n'y en a plus que 0,5% qui sont privés. Donc, il y a vraiment un abandon des collèges populaires. Et ce chiffre évolue à la baisse depuis 10 ans, en fait. Donc, on voit bien qu'il y a une spécialisation sociale de l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public.
Cela, cette tendance, cette nouvelle géographie scolaire et sociale, Harold Kober, cela vient quand même tempérer fortement, vivement, l'idée qu'il y a une mixité réelle, non pas à l'échelle d'établissement, mais justement dans la spécialisation du privé.
Alors, je n'ai pas la connaissance structurelle que Pierre Merle a, mais est-ce que c'est le privé qui se spécialise ou est-ce que ce sont les catégories favorisées qui font des stratégies d'évitement aussi au bout d'un moment? Et donc, le privé va là où il a potentiellement des élèves qui peuvent venir chez eux. Je ne sais pas si c'est une stratégie de l'école elle-même ou des parents qui cherchent aussi autre chose et qui se demandent aussi... parce qu'il faut aussi s'interroger sur le fait de pourquoi est-ce que le public ne séduit plus? Comment est-ce qu'on pourrait réenchanter l'école publique? Je pense que nous serons d'accord qu'il y a tout un tas de réformes qui ont détruit notre école publique, dans laquelle moi j'ai toujours cru. Moi je ne suis pas spécialement catholique, je ne suis pas spécialement croyant, j'ai un rapport avec Dieu qui est très compliqué, qui pourrait nous occuper 2 heures d'émission si vous vouliez.
Pourquoi enseignez-vous dans le privé alors?
Tout simplement parce que quand j'ai décidé de devenir professeur, ça a été une longue décision, j'ai passé ma vie à fuir l'enseignement. J'ai toujours dit, j'ai toujours pensé que je serais un très mauvais enseignant. Peut-être le suis-je, ça ce n'est pas à moi d'en juger. Mais suite à l'assassinat de Samuel Paty, c'est quelque chose qui m'a ébranlé. Je me suis dit, on est en train de décapiter les lumières à la française, la culture à la française, le débat à la française. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis écrivain, j'ai un doctorat de lettres et l'enseignement s'est présenté à moi. Et j'ai candidaté le même jour à la même heure sur la plateforme de l'école du privé sous contrat et dans le public. Le privé m'a répondu sous 15 jours. J'ai eu des réunions, un processus de sélection et le public ne m'a répondu que 6 mois plus tard. Et suite à un entretien un peu étrange que j'ai pu avoir, il ne m'a jamais rappelé.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Guillaume Prévost, secrétaire général de l'enseignement catholique. Il s'exprimait pour le Figaro le 26 février dernier.
Il y a des zones dans lesquelles on aimerait aller davantage à la rencontre des familles parce qu'on estime qu'on a quelque chose à apporter et qu'il y a un vrai désir d'enseignement catholique dans ces zones-là et où on a du mal à aller parce qu'il y a une forme de monopole de l'école publique en banlieue, dans l'éducation prioritaire, auprès des populations issues de l'immigration. On a beaucoup de mal à aller à la rencontre de ces familles parce que à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, comment voulez-vous accueillir les enfants issus de milieux plus populaires quand le repas à la cantine coûte 7 euros chez nous et qu'il est quasiment gratuit dans le public? Quand un élève chez nous est financé 50% de ce qui coûte dans le public, parce qu'on n'a pas accès aux aides sociales et parce qu'il y a une forme de prédation d'un certain nombre d'acteurs publics sur ces populations. Et pour nous, c'est pas admissible. Qui organise la ségrégation scolaire? Qui nous empêche d'être au rendez-vous des fragilités de la société? Moi, je vous le dis très clairement, et je pense que c'est grave, l'école publique a organisé son monopole sur les classes populaires.
Les termes de prédation ont été employés. Monopole sur les classes populaires, c'est sans doute trop fort. Comment vous analysez, Pierre Merle, vous-même, cette analyse? Au fond, c'est de la faute de l'école publique si l'école publique attire moins?
Alors, les décisions d'ouverture des classes et d'établissements sont prises par l'enseignement privé. C'est l'enseignement privé qui discute au niveau du ministère, je veux ouvrir telle classe dans tel ou tel lycée ou dans tel et tel collège. Aujourd'hui, c'est une demande du public depuis longtemps. Aujourd'hui, pour la prise en charge des élèves en difficulté, en situation de handicap, le privé n'en prend que 10%, alors qu'il représente 18% de l'ensemble des élèves scolarisés.
Au-delà des critères sociaux, là, on parle simplement handicap, toute chose égale par ailleurs.
Toute chose égale par ailleurs. Sur la prise en charge des élèves en difficulté scolaire, qui sont scolarisés dans les SECPA, le privé n'en scolarise que 6%. Donc, en fait, il ne faut pas dire, nous, on ne peut pas scolariser ces élèves, parce que si demain, dans tel ou tel collège, les établissements privés demandent des ouvertures de SECPA, ils auront cette ouverture de SECPA. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je trouve que cette formulation ne correspond pas à la réalité des politiques qui sont menées par l'enseignement catholique. Dans les faits, si l'enseignement catholique peut scolariser plus d'enfants en difficulté scolaire ou plus d'enfants en situation de handicap, il le peut. Je crois tout simplement que ces publics ne l'intéressent pas beaucoup. Il y a une étude aussi qui montre, il y a des testings qui ont été faits en présentant à des établissements privés des dossiers d'élèves, des élèves, un élève qui s'appelle Pierre Dupont et un élève qui s'appelle Mohamed Charkaoui. Eh bien, les réponses du privé sont beaucoup moins nombreuses quand l'élève, c'est le même dossier scolaire, quand l'élève s'appelle Mohamed Charkaoui. Moi, je me souviens, j'avais été invité il y a une dizaine d'années par l'enseignement catholique pour présenter mes travaux. Et je leur avais dit, il y a un problème dans l'accueil des élèves d'origine étrangère. Et il y a un chef d'établissement, c'était devant un parterre de chef d'établissement, qui me dit, oui, mais personnellement, moi, j'ai ouvert au niveau des élèves d'origine étrangère, et je voyais que j'avais moins d'enfants d'origine aisée. Donc en fait, il y a un modèle économique qui les amène à choisir des parents d'origine favorisée pour attirer d'autres parents, pour avoir de meilleurs résultats scolaires et en fait, pour avoir une attractivité plus forte. Donc l'ouverture sociale est pour le privé un problème quasi économique.
Harold Kober, en miroir justement, et cette fois-ci du point de vue des élèves et des parents d'élèves, qu'est-ce qui attire dans le modèle du privé? Qu'est-ce qui est permis, justement, de leur point de vue, dans les écoles privées, qui est beaucoup plus compliqué, justement, dans le secteur public?
Je voudrais juste rebondir après, à votre question. Il y a peut-être aussi un autre élément, c'était dans un rapport de la Cour des comptes de 2023 qui avait étudié l'enseignement privé catholique sous contrat, qui expliquait qu'il y avait une règle administrative qui n'est pas une loi, qui essaye de limiter plus ou moins à 20%, à un cinquième des élèves, la proportion des effectifs et des moyens alloués au privé. Donc après, sans doute, je suis certain que ce que vous dites est absolument vrai et que tous les témoignages que vous rapportez le sont évidemment, et qu'il y a sans doute des établissements qui ne veulent pas accueillir ce type d'élèves. Après, s'ils ne peuvent pas avoir les moyens nécessaires pour le faire, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, je pense qu'il y a certains établissements qui n'ont pas les moyens aussi, juste concrets, de bien accueillir ces élèves-là.
Je vous relance, Harold Kober, sur, au fond, comment on explique le succès du secteur privé. Qui trouve-t-on ?
Qu'est-ce qu'on y trouve pour qui ? Pour les élèves ou pour les
parents ? Pour les élèves et pour les parents d'élèves. Pourquoi font-ils ce choix ?
Alors, il y a une chose, enfin, en tout cas, de l'expérience que j'en ai, c'est que dans le lycée où je suis, je pense dans l'ensemble des lycées privés catholiques sous contrat, il n'y a pas de grève et il y a toujours un professeur devant chaque classe. Je pense qu'ils cherchent cela. Le fait aussi, peut-être que les parents payent des frais de scolarité, et le pire, ce sont les frais de cantine qui doublent, et là, il y a vraiment un réel problème à ce niveau-là, selon moi. C'est beaucoup trop cher, mais comment est-ce que ça peut s'arbitrer ? C'est que les parents sont aussi certains qu'ils sont dans un environnement favorable et calme, parce que les parents accompagnent énormément les enfants par rapport à cela. Comme ils payent, les enfants se comportent bien. Moi, les élèves se lèvent quand je rentre dans ma classe, quand je croise d'autres élèves qui ne sont pas les miens dans les couloirs, on se salue. Et donc j'ai une autorité facile. Et nous, professeurs du privé, nous travaillons dans un petit écrin. Moi, j'ai une grande admiration pour les professeurs du public qui sont dans des zones extraordinairement dangereuses et qui, eux, pour un mot mal prononcé, jouent leur vie, voir l'affaire Samuel Paty et autres. C'est-à-dire, je ne suis pas l'avocat du
dangereuse, le mot est quand même un peu fort, disons, socialement plus modeste et plus, peut-être plus compliqué.
Oui, mais ça peut être dangereux. On a vu, hélas, fleurir des coups de couteau depuis septembre. Donc, ils sont dans un environnement qui peut être plus difficile par rapport à nous qui travaillons dans des conditions extraordinairement favorables, je trouve.
Pierre Merle, comment vous analysez ce discours ? Est-ce que là aussi, ce sont des éléments de différenciation que vous identifiez entre privé et public ?
Oui, ce sont des éléments de différenciation parce qu'en fait, les établissements privés ont une logique du client. Parce qu'ils savent que les élèves peuvent partir. Pour le public, les élèves ont moins cette liberté dans la mesure où, si les élèves veulent partir, il faudra payer.
Le client, c'est vraiment leur vision.
Je pense qu'il y a cette dimension qui est une dimension de type économique, parce que si les parents veulent inscrire leurs enfants dans le privé, c'est aussi parce que les taux de réussite au brevet et les taux de réussite au bac sont nettement supérieurs. Et pourquoi les taux de réussite au bac sont nettement supérieurs ainsi qu'au brevet ? C'est parce qu'en fait, il y a une population qui est beaucoup plus favorisée, qui a un développement cognitif qui est plus rapide et qui permet de faire plus facilement des cours, parce que ce sont des élèves qui sont plus acquis, et les parents aussi, qui sont plus acquis à la promotion que peut offrir l'école. Donc, je pense que cette attractivité vient des taux de réussite, et ces taux de réussite viennent de la sélectivité. C'est un engrenage vicieux, mais c'est celui qui est en marche. Et il est vicieux, surtout, enfin, il est vertueux pour le public, pour le privé, et il est vicieux pour le public, dans la mesure où, évidemment, plus les enfants de catégorie aisée partent dans le privé, plus c'est difficile de tenir la classe.
C'est un cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce cercle vicieux qui aboutit à rendre l'école publique de moins en moins attractive. Donc je reprends tout à fait le terme, il faut essayer de réenchanter l'école publique.
Harold Cobert, je voudrais vous faire réagir à ce terme qui a été employé, qui n'est pas anodin pour le coup, cette notion de client. Est-ce que ça correspond à la vision, à la philosophie peut-être qui infuse dans l'établissement privé dans lequel vous œuvrez, et peut-être aussi vision portée par certains directeurs, directrices d'établissement ?
Ce n'est pas péjoratif. Hein, dans...
Bah, client tout de même, pour un établissement qui est censé porter une mission de service public, même quand on est dans le privé, ça l'est un petit peu. Alors, votre réaction, Harold Cobert ?
Ben, écoutez,
en tout cas, c'est comme ça que je le reçois.
Dans le lycée où je suis, je ne pense pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans d'autres, sûrement, et pourquoi pas. Je veux dire, je n'ai pas la preuve du contraire.
Je vous interroge sur votre établissement.
Et de toutes les façons, à partir du moment où, effectivement, le privé catholique sous contrat est quand même... Je crois qu'il est subventionné à peu près à 75%.
Oui, les frais de fonctionnement.
Mais il reste quand même 25%, et ils ont donc des coûts propres. Donc ils ne peuvent pas ne pas avoir une logique comptable à un moment, parce qu'il faut que le bilan s'équilibre. Donc nécessairement, il y a à un moment ou à un autre une réflexion sur ces points-là. Concernant les élèves en difficulté cognitive, l'établissement où je suis, par exemple, nous avons 5 premières STMG, donc technologiques. J'en ai une, et quand on fait passer les bacs blancs, nous mettons dans une salle pour qu'ils puissent... Tous les élèves qui sont en tiers-temps, qui ont des PAP, donc des protocoles d'accompagnement pédagogique pour tous les élèves 10, TDAH, TDA, etc. Eh bien, nous en avons entre un quart et un tiers de nos élèves, et pourtant, certains viennent de milieux très favorisés. Et en revanche, j'ai plutôt l'impression que les problématiques cognitives sont transclasses, elles n'ont pas de classe, elles sont liées, elles sont multifactorielles. Et le privé accueille des élèves et on n'est pas très bien formé pour savoir comment enseigner à un élève dyspraxique, dysorthographique, un TDA, un TDAH. On n'est pas nécessairement formé et ça représente quand même, je vous dis, entre 25 et 30% des effectifs chez nous, par exemple.
Sur la dimension, cette fois, de ce qu'on appelle parfois la liberté pédagogique, Pierre Merle, c'est une notion qui revient souvent, cette fois-ci, en faveur du privé, qui aurait justement dans ce domaine une liberté plus grande. Qu'est-ce que l'on observe là aussi dans les faits? D'abord, que permet cette liberté, concrètement, dans ces établissements, pour les élèves, pour les parents d'élèves, liberté offerte ou non aux enseignants? Quelle est la différence entre justement les deux secteurs, et privé et public?
Alors, normalement, la liberté pédagogique est également présente dans le public. Peut-être qu'il y a...
Officiellement.
Il y a la loi qui prévoit des innovations pédagogiques. Après, la mise en œuvre est peut-être plus difficile. Le chef d'établissement a peut-être moins de latitude. Il y a peut-être plus de contrôle. Alors que dans le privé, le chef d'établissement a une plus grande latitude. Et je pense que cet élément peut jouer. Après, la liberté pédagogique... Il n'y a pas d'études, en fait, sur les différences pédagogiques entre le public et le privé. Et les résultats scolaires à catégorie socio-professionnelle identique sont identiques. Donc, il n'y a pas une supériorité du privé, contrairement à ce qui peut être parfois présenté.
Pardonnez-moi, ce que vous nous dites là, c'est que, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, indépendamment de la classe sociale, les résultats entre public et privé sont à peu près similaires?
Oui, en prenant en compte le fait que l'origine sociale n'est pas la même, mais à catégorie sociale identique, les résultats du public et du privé sont identiques. Et même, il y a une étude très récente parue par l'OCDE, suite aux évaluations PISA, qui aboutit au fait que les résultats du privé seraient plutôt moindres. Donc c'est tout à fait le contraire de l'opinion la plus fréquente. Alors, je pense qu'il faut retenir identique parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Je vois pas pourquoi on privilégierait l'étude de l'OCDE par rapport aux études françaises. Mais on voit qu'il y a cette idée que le privé prépare mieux les élèves. Et en fait, c'est tout simplement qu'il a un avantage au niveau de la catégorie sociale. Je voudrais revenir juste sur un petit point, sur les différences cognitives. Les études montrent que dès l'âge de 2 ans, les enfants d'origine aisée ont un vocabulaire qui est plus riche, une syntaxe qui est plus développée. Donc on voit que les différences sociales se créent très rapidement, en fait.
Ça, je...
C'est peut-être pas cette idée-là qui a été développée.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai pas la connaissance macro que vous pouvez avoir, mais moi, je me souviens, l'année dernière, je faisais Bel Ami, et à un moment, le sujet, c'était sur la corruption des élites. Le mot est donc lancé. Et j'ai l'une de mes élèves, qui est d'une catégorie très favorisée, qui dit « Monsieur, je ne comprends pas le mot, je dis quel mot, corruption ou élite ?» Elle me dit « Les deux. » Elle a 15 ans, elle est en seconde, donc je ne sais pas quels sont... Donc, moi, j'ai quand même observé...
Bon, mais cela, c'est un exemple, qui ne remet pas en cause les statistiques et les données macro.
Non, sûrement, mais en tous les cas, dans toutes les copies que je peux corriger, je peux vous promettre que ce n'est pas tant l'orthographe qui pêche, que ce soit des catégories plus modestes ou plus favorisées, c'est la grammaire. Ils ne savent plus où est le verbe, ils ne savent plus conjuguer le verbe, ils ne savent plus accorder, et ça, c'est beaucoup plus grave.
Je reviens un instant, Harold Cobert, sur cette notion de liberté pédagogique au sens très très large. Du point de vue du professeur, de l'enseignant que vous êtes, est-ce que vous vous sentez plus libre? Est-ce que vous avez, dans votre quotidien, quelques libertés plus grandes?
Oui, j'ai fait quelque chose qui, normalement, est interdit tacitement, s'il n'y a pas une loi qui interdit de le faire. Mais on voit bien dans les commissions d'harmonisation, dans les circulaires qui ont pu circuler pour le bac l'année dernière, que normalement, c'est interdit. En classe de seconde, au deuxième trimestre, j'avertis les élèves et les parents que je vais retirer des points pour la grammaire. Tous les points d'accord, les A avec accent, A sans accent, les OU, les verbes, etc. Et Cécile Chabot, qui est une amie, qui a publié un livre, qui a les professeurs certifiés dans le public depuis 25 ans, qui a fait d'abord la Seine-Saint-Denis et qui maintenant travaille dans le 15e arrondissement, déclarait sur France Inter il y a quelques semaines que elle avait vu des collègues à elle ils avaient mis les vraies notes et ils ont été convoqués parce qu'on leur expliquait qu'ils ne pouvaient pas mettre les vraies notes. Et toutes ces choses-là, normalement, ne sont pas totalement possibles. Il n'y a pas de règles écrites, mais il y a une coutume qui veut qu'on ne le fasse pas. Et moi, ce que j'ai remarqué, lorsque je le fais, en leur imposant de prendre 10 minutes pour se relire et d'être attentif à cela, c'est que des élèves qui faisaient jusqu'à 35 fautes, on n'en faisait plus que 5. Et ce qui m'a amené à penser que les générations d'aujourd'hui ne sont pas plus bêtes qu'avant, mais simplement, on a tellement baissé les exigences au niveau des programmes qu'ils ne peuvent pas s'élever plus haut, et que quand on lève l'exigence et qu'on les accompagne, ils en sont tous capables. Je suis convaincu que dans le public, on peut faire la même chose.
Pierre Merle ?
Oui, alors en fait, cet exemple me plaît beaucoup parce que j'ai
mené... Ça vous fait sourire même, on ne le voit pas à la radio, mais oui, ça vous fait sourire.
Non, mais il me plaît beaucoup tout simplement parce que j'ai mené des entretiens auprès de professeurs, évidemment, et notamment d'une professeure de lettres, et je me souviens très bien de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, bon, maintenant, on nous demande de plus compter les fautes d'orthographe, etc. Je trouve que c'est inacceptable, que la maîtrise de la grammaire doit absolument être un principe prioritaire dans notre enseignement, et donc, moi, je compte quand même les fautes. Donc, en fait, entre la règle qui devrait s'appliquer et puis la pratique, les libertés, les profs du public se donnent aussi des libertés.
Mais je suis convaincu que les profs du public ne renoncent absolument pas et essayent quand même de faire comme ils peuvent.
L'autre point, Pierre Merle, qu'il s'agit évidemment d'aborder, c'est le soutien financier de l'État à l'égard de ces établissements privés. Alors d'abord, pour commencer, à quelle hauteur se place-t-il ce soutien financier? On parle de 10 milliards d'euros chaque année qui sont consacrés, dévolus en tout cas aux établissements privés. Et surtout, quelle est la nature au fond du contrat entre ces établissements et l'État?
C'est même 11,4 milliards, je crois, vous aviez dit.
Oui, un peu plus que 10 milliards, mais enfin... Bon, je ne vais pas dire qu'on n'est pas à un milliard près, parce que c'est quand même énorme.
Oui, voilà. 11,4 milliards, alors.
Oui, voilà.
Non, peut-être.
Ça. Voilà. C'est une somme qui est énorme et qui permet de financer 75% des frais de fonctionnement. Donc, il reste 25% des frais de fonctionnement à la charge du privé, plus les frais d'investissement, qui peuvent faire l'objet aussi d'un financement. La contrepartie, c'est la loi Debré. La loi Debré, elle est relativement claire sur un des points, en tout cas, c'est que tous les enfants peuvent avoir accès à l'enseignement privé. Tous les enfants, quelle que soit leur origine, donc origine ethnique, on en a parlé tout à l'heure, leurs opinions et leurs croyances.
À l'échelle de l'établissement ou du pays ?
À l'échelle du pays et de l'établissement.
Il y a énormément d'établissements privés qui refusent des élèves.
Oui, alors...
Faute de place peut-être.
Oui, alors la demande est supérieure à l'offre. Donc, les établissements privés sont dans l'obligation, statistique, je dirais, de retenir un certain nombre d'élèves. Et c'est là, je dirais, où les problèmes commencent. Je vous ai donné l'exemple du testing entre Pierre Dupont et puis Mohamed Cherkaoui. Entre les deux, pour des raisons qui tiennent à l'image de marque, où il ne faut pas dépasser un certain quota d'élèves d'origine étrangère, eh bien, au bout d'un certain temps, on va préférer l'enfant d'artisan, parce que les professions libérales et les artisans sont acquis, en fait, au privé, et on va préférer ce type d'élèves, et puis de parents, plutôt, et puis les ingénieurs, les professions libérales, etc., qui sont plus demandeurs, parce que c'est l'image du privé, en fait, qui s'impose à eux. Alors que, par exemple, les profs, qui sont plus acquis au public, mettent beaucoup plus rarement leurs enfants dans le privé, même si parfois ils le font. Mais ça dépend aussi du local, c'est-à-dire quel est l'établissement du secteur pour les parents. Lorsque l'établissement du secteur, c'est un établissement REP ou REP+, dans lequel il y a plus de difficultés scolaires et plus de difficultés de discipline, eh bien, évidemment, il y a une confrontation difficile entre je suis fidèle au public ou je veux éviter le public qui, à ce moment-là, n'est pas satisfaisant. D'où l'idée, d'ailleurs, de réenchanter le public et de fait de pouvoir attirer davantage d'enfants d'origine aisée.
La voix du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray.
Pour être très transparent, mes enfants ont fait leur scolarité aussi bien dans le public que dans le privé sous contrat. J'ai des proches qui ont exercé aussi bien dans le public que dans le privé sous contrat. Et très important pour moi, c'est pas la question. L'enjeu pour moi, c'est de, en tant que ministre, mon rôle, c'est de garantir deux choses. C'est l'universalité de l'enseignement, et les programmes sont les mêmes pour tous. Et c'est de garantir l'universalité de la protection des élèves. On est là pour instruire et protéger, qu'on soit en public ou en privé sous contrat. Les règles sont les mêmes de ce point de vue-là. Si j'avais pas confiance en l'école publique, je ne lui aurais pas dédié un tiers de ma vie professionnelle et je serais pas ministre aujourd'hui. Le reste, ça relève de configurations purement personnelles.
Est-ce qu'il vous semble, Harold Cobert, que le privé et le public sont considérés de la même façon dans le discours public et dans le discours politique ?
Non, parce que, hélas, l'enseignement est un terrain de bataille idéologique de tous les côtés. L'enseignement de l'histoire est un champ de bataille idéologique. Et tant qu'il y aura de l'idéologie, on sera dans l'embarras, je pense. Il faudrait désintoxiquer l'éducation de l'idéologie, de quelque bord qu'elle soit. Et ce serait une excellente chose. Je voudrais revenir aussi sur la question des chiffres de tout à l'heure, très, très brièvement. Il y a une étude, certes, qui a été faite par la CEGEC, je crois, il y a 2 ans, et qui se base sur les chiffres de la DEPP et de la RPF, je ne sais plus quel est l'acronyme, oui, je m'y perds.
Bon, là, dans tous les cas, vous nous perdez aussi. Donc, allons au résultat.
Et qui était de voir précisément comme les familles contribuent donc à hauteur de 25% versus les 75% que l'État finance, cela ferait, parce que, est-ce que les chiffres sont fiables ou pas, ça, je ne sais pas, faire une économie à l'État de 9,4 milliards.
Alors, c'est faux.
Non, mais très bien. Mais je préfère, mais... c'est pour ça que je dis serait, c'est pour ça que je vous
dis. Mais alors, Pierre Merle. Cette étude est souvent présentée, et en fait, le principe de l'étude, c'est de mélanger l'ensemble de la somme qui est versée au privé et la diviser par le nombre d'élèves. Et on fait la même chose avec le public. Mais en fait, dans le budget du public, il y a les retraites des enseignants.
Ah, oui,
donc
ça,
en fait, ça fausse totalement le calcul. Et puis surtout, et c'est bien connu, il y a beaucoup plus d'agrégés dans le public et beaucoup moins de contractuels qui sont moins payés, alors que c'est l'inverse dans le privé qui a beaucoup plus de contractuels qui sont moins bien payés et de certifier, et moins de certifier d'agrégé.
Donc, je confirme, je suis contractuel.
Oui, donc, en fait, évidemment, le privé est reçoit moins par élève, puisque de toute façon, sa structure de masse financière pour les enseignants est nettement moindre.
Je reviens, Pierre Merle, sur le discours politique, sur la façon peut-être aussi dont une inégalité traverse les discours publics sur le privé et sur le public. Justement, comment est-ce que vous les analysez, vous? Est-ce que le public est déconsidéré, si je pose la question d'une manière un peu directe?
Quand une ministre comme Amélie Oudéa-Castéra dit « Moi, j'ai mis mes enfants dans le privé parce que il y a beaucoup de grèves dans le public », alors qu'en fait, en l'occurrence, ces enfants ont été scolarisés dans un établissement où il n'y avait pas de grève, d'absence, pardon, enfin, ça peut être lié aussi, c'est problématique, c'est un discours qui ne convient pas à la réalité. Alors, sur les absences, on n'a pas de statistiques claires sur les absences, mais on sait que les contractuels, par exemple, sont beaucoup moins souvent absents que les titulaires. Il y a plus de contractuels dans le privé. On sait qu'il y a des réunions qui sont organisées dans les établissements populaires de concertation, parfois, ou de formation continue, par exemple, qui se font sur les heures de cours. Donc, effectivement, à juste titre, un certain nombre de parents peuvent considérer qu'il y a plus d'heures de cours qui vont être assurées dans le privé que dans le public. Là, il y a un champ de progression de la part du public.
De ce point de vue-là, Harold Cobert, et d'ailleurs, même si j'élargis, si je renoue avec l'expression que vous avez un peu employée plus tôt, réenchanter le public, du point de vue du privé, ça consiste en quoi?
Moi, je dirais que ce serait de remettre justement de l'autorité, de la rigueur et de l'exigence qui sont des cadeaux faits pour les enfants. On a eu tendance, il y a une idéologie qui a quand même été à l'œuvre, qui a eu tendance à confondre autorité et autoritarisme, rigueur et rigorisme. L'autoritarisme, c'est Betarame. L'autorité, c'est un cadeau que l'on fait aux enfants comme un tuteur autour d'un arbre pour qu'il pousse bien. Et je pense que la clé est là, et c'est ce qu'on arrive à faire dans le privé, certes, parce qu'on a un public beaucoup plus favorisé par endroit, mais je pense qu'il faudrait réenchanter le public par rapport à cela déjà, parce que c'est des cadeaux qu'on fait aux enfants.
Même question, Pierre Merle, comment on réenchante?
Alors, réenchanter, à mon avis, nécessite aussi d'avoir une diversité sociale qui disparaît. Parce que dans les grands établissements parisiens comme Louis-le-Grand ou Henri IV, il n'y a pas ce type de problème. On a des fonctionnements qui sont très proches, qui sont identiques en fait au privé. Donc, je pense que la composition sociale des établissements et la très forte concentration des enfants d'origine populaire dans certains établissements est en fait en partie... mais en partie tout de même, un obstacle au réenchantement de ce type d'école, malgré tous les efforts qui peuvent être faits et qui sont parfois couronnés de succès. Parce que certains établissements populaires ont en fait un résultat une efficacité supérieure, un résultat supérieur à certains établissements privés à origine sociale identique.
Et réenchanté, bien sûr, en considérant un peu mieux, au sens large d'ailleurs, tous les personnels de l'éducation nationale. Ça passe évidemment par cela. Merci à tous les deux, Pierre Merle, Harold Cobert. Merci également à celles et ceux qui ont pensé, imaginé cette émission. Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Diane de Vancey. À suivre après le journal Pesticides, la politique contre la science.